Radio Kapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal du matin dont voici les titres. L'ancien président Joseph Kabila vient d'être sanctionné par les États-Unis pour avoir fourni un soutien matériel à des groupes armés qui insécurisent l'est de la RDC. L'administration Trump est fermement déterminée à faire en sorte que toutes les parties respectent les engagements historiques qu'elles ont pris au titre des accords de Washington et de Doha. Ce 1er mai est journée internationale des travailleurs. Selon les dernières estimations publiées pour la première fois dans ce nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail, les facteurs des risques psychosociaux ont entraîné plus de 840 décès annuels imputables à des maladies cardiovasculaires ou à des troubles mentaux. L'invité de ce journal est le docteur Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital tertiaire Jason Sendwe de Lubumbashi. Il encourage la consultation prénatale et le respect du calendrier vaccinal en faveur des enfants en République démocratique du Congo. Ceci permettra, selon lui, de renforcer leur système immunitaire et de les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Les États-Unis imposent des sanctions à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, pour avoir fourni un soutien matériel à des groupes armés qui déstabilisent l'est du pays. Grâce au soutien financier et politique de Joseph Kabila, ces groupes sont les principaux vecteurs de violence et d'instabilité dans la région, selon un communiqué du Département d'État des États-Unis, publié le 30 avril 2026 par Thomas Pigott, porte-parole du département d'État, dont une copie est parvenue à Radio Kapi. Reportage de Jude Mystère Bilanda, rendu par Christelle Fritimangwa.
Les États-Unis sont solidaires du peuple congolais et appellent tous les dirigeants de la région à rejeter ceux qui perpétuent la violence et l'instabilité, ajoutent les communiqués. L'administration Trump est fermement déterminée à faire en sorte que toutes les parties respectent les engagements historiques qu'elles ont pris au titre des accords de Washington pour la paix et la prospérité du cadre de Doha, et elle employera tous les outils à sa disposition pour promouvoir une stabilité pérenne dans la région. Les États-Unis continueront de soutenir les solutions diplomatiques visant à mettre fin aux souffrances de civils dans l'est de la RDC et à créer les conditions d'une paix et d'une prospérité durable dans toute la région, poursuit ses communiqués. La mesure d'aujourd'hui est prise en vertu de pouvoirs conférés par le décret présidentiel 13-413, tel qu'amendé par le décret 13-671 pour l'octroi d'une assistance matérielle, le parrainage ou l'apport d'un soutien financier, matériel ou technologique, ou de biens ou services à l'appui du M23 et de l'AFC.
Ce 1er mai est la journée internationale des travailleurs. Les risques psychosociaux liés au travail constituent une menace majeure et croissante pour la sécurité et la santé des travailleurs, la productivité organisationnelle et plus largement la performance économique mondiale. D'après les dernières estimations publiées pour la première fois dans ce nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail, les facteurs des risques psychosociaux ont entraîné plus de 840 décès annuels imputables à des maladies cardiovasculaires ou à des troubles mentaux. Ces risques entraînent également la perte de presque 45 millions d'années de vie, corrigée du facteur invalidité chaque année. Plus de détails avec vous, Alain Irung.
Pour l'OIT, le coût économique annuel combiné des maladies cardiovasculaires et des troubles mentaux associés à ces risques psychosociaux avoisine 1,37% du PIB mondial. À cet égard, la durée excessive de travail, l'un des facteurs des risques psychosociaux majeurs, compte tenu de son association à un risque accru des maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux, demeure répandu. 35% des travailleurs dans le monde travaillent plus de 48 heures par semaine. L'exposition à l'intimidation et à d'autres formes de violence et de harcèlement constitue une inquiétude majeure. 23% des travailleurs dans le monde ont subi au moins une forme de violence ou de harcèlement au cours de leur carrière professionnelle, la violence psychologique étant la plus fréquente avec un taux de 18%, indique l'OIT.
Nouvelle parlementaire à présent. La problématique de la relance de la société textile de Kisangani, la Sauteski, refait surface à l'Assemblée nationale. Plus de 7 millions de dollars américains ont déjà été décaissés par l'État congolais depuis 2023 sur un total attendu de 17,5 millions. Mais des irrégularités sont signalées dans l'utilisation de ces fonds. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, ce mercredi en réponse à une question orale avec débat du député Théovel Lotika, élu de Kisangani dans la Tchopo. Ce dernier exige plus de clarté sur les plans de relance de cette entreprise à fort impact socio-économique. Des détails avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Dans sa réponse, le ministre de l'Industrie indique que la vision du gouvernement est de revitaliser complètement la Sauteski, notamment à travers la modernisation de ses équipements. Il rappelle toutefois qu'il s'agit d'une société d'économie mixte dont l'État détient 40% du capital contre 60% pour la société textile et imprimerie du Congo, Texico SA.
Les éléments du dossier renseignent que la première tranche, soit 7 669 461 dollars américains, avait été intégralement décaissée par le Trésor public. Cependant, des irrégularités et anomalies dans l'utilisation de ces fonds ont été dénoncés à maintes reprises par la notabilité de la Tchopo, qui a épinglé notamment le fait que les fonds décaissés étaient gérés exclusivement par la Texico SA.
Cette situation a suscité un vif débat en plénière. Plusieurs députés exprimaient leurs préoccupations quant à la gestion des fonds publics. Dans sa conclusion, l'auteur de la question évoque même des soupçons de détournement et appelle à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Théover Lotika.
Nous demandons réellement que cette société soit relancée, que ces projets arrivent au bout.
Le président de l'Assemblée nationale indique qu'une commission d'enquête pourrait être mise en place conformément à la loi.
Parlons à présent d'Abraham Kachala, un travailleur de la société minière de Bakwanga à Mbujimayi au Kasai Central. Il travaille au polygone minier comme électricien à la division d'électricité et de maintenance. Sa vie s'est beaucoup détériorée depuis le ralentissement des activités de cette société minière suite au manque d'outils de production. Esther Ndalafina est allée à sa rencontre.
Père de 8 enfants, Abraham Kachala rejoint chaque matin son poste de travail au polygone minier malgré les intempéries.
D'habitude, nous nous réveillons à 4h du matin, 5h du matin pour aller au service à 6h.
Au service de maintenance, ils sont que 2 agents à couvrir les tâches jadis assurées par une dizaine de collègues.
Nous sommes à 2 dans notre équipe de montage et remontage des machines tournantes. Donc, il doit avoir normalement 10 à 15 travailleurs.
Malgré le dévouement, la récompense n'est pas dans l'assiette, affirme sa chère épouse. Elle s'efforce de nourrir la famille en improvisant chaque fois la vente des fruits cueillis des arbres pour que les enfants trouvent leur part.
Comment va-t-il trouver la nourriture à la maison? Souvent, il sort sans rien laisser et il sait qu'il ne trouvera rien. Pour contourner cette difficulté, nous vendons les fruits cueillis ici dans la parcelle pour acheter la nourriture. Mais il y a des périodes où nous passons 3 jours sans manger.
Après le travail, Abraham Kachala ne connaît pas les luxes du repos. Il fait face aux responsabilités familiales. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa en cette journée internationale du travail, direction les sites météo dans la commune de Ngaliema. Ici sont fabriqués de meubles, de bureaux, de ménages et d'autres objets d'art. Au-delà d'être un lieu de travail, ce site est un centre de formation à ciel ouvert pour de nombreux jeunes Kinois. Joël Wetchi, reportage.
Le site des météos à Ngaliema n'est pas un simple lieu de travail, c'est une véritable école de vie. Plusieurs jeunes y apprennent différents métiers pour survivre et être utiles dans la société. Ils sont menuisiers, garnisseurs, carcasseurs, peintres ou vanniers, mais le plus important est d'apprendre un métier pour forger un avenir radieux. Rodi Diamonika est artisan vannier depuis l'âge de 16 ans. Ce travail lui a permis de payer ses frais scolaires et académiques.
J'ai commencé à travailler ici à Météo à l'âge de 16 ans. À partir de 7h30, je suis à l'école. 13h juste, je suis ici à Météo. Ça m'aide à payer les frais scolaires et c'est grâce à Météo qu'aujourd'hui je suis devenu licencié.
Avec 15 ans d'expérience comme garnisseur, M. Keto affirme que le site Météo l'a aidé à fonder une famille et lui permet encore aujourd'hui de nouer les deux bouts du mois.
J'ai commencé à travailler ici depuis 2011. Aujourd'hui, je suis maître. J'ai une femme et des enfants que j'ai nourris grâce à ce travail.
Pour sa part, maître Dilous, menuisier aguerri et expérimenté, invite les parents à envoyer leurs enfants pour l'apprentissage des différents métiers.
Météo, c'est aussi un centre de formation. Vous pouvez venir avec vos enfants pour qu'ils suivent des formations pratiques. Ils deviendront des hommes utiles dans la société comme nous.
À Météo, le maître Moreste, l'apprentissage des métiers pour être utile dans la société.
Ce journal se poursuit au Nord Kivu où les opérations douanières sont en grande partie suspendues au poste frontalier de Kasindi-Loubiria, principal point d'importation et d'exportation des marchandises pour la région de Beni. En cause, les durcissements du mouvement de grève des déclarants en douane qui contestent l'introduction de 3 nouvelles taxes dans le système de déclaration sidonien. Une situation qui, selon eux, entraîne déjà une hausse généralisée des prix sur les marchés. Les précisions de Marc Marofimbo.
À Kasindi-Loubiria, une longue file de camions citernes est immobilisée du côté congolais de la frontière, paralysée par le mouvement de grève des déclarants en douane. À l'origine de cette situation, la contestation des 3 taxes supplémentaires introduites depuis le mois dernier dans le système sidonien. Il s'agit notamment de la taxe pour la promotion de la santé, de la taxe de contrôle des produits toxiques et de celle sur le prix moyen frontalier appliquée aux produits pétroliers. Conséquence, une flambée de prix sur les marchés locaux. Produits pétroliers, denrées de première nécessité et matériaux de construction enregistrent des hausses significatives. Pour Eugène Kakule Matembela, président de l'Association congolaise des commissionnaires agri en douane, ACAD, cette démarche vise à préserver le pouvoir d'achat des ménages.
La lutte que nous menons, c'est une lutte communautaire parce que la lutte vise l'intérêt de la population, mais pas des individus. Toutes les taxes que nous payons dans le système, ce sont des taxes qui sont édictées par le gouvernement central. Et les gens doivent arrêter d'induire la population en erreur.
Sur le terrain, les effets se font déjà sentir. Le litre d'essence se vend actuellement entre 6500 et 7000 francs congolais contre 5500 francs congolais il y a encore quelques jours. Une situation qui se répercute également sur les tarifs du transport à Beni, Butembo et Lubero. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Santé à présent, le lancement officiel de la deuxième vague de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants âgés de 0 à 59 mois est intervenu ce jeudi 30 avril à Goma. Cette phase concerne les zones de santé des territoires de Lubero, Masisi, Nirangongo, Rutshuru, ainsi que celle de la ville de Goma qui n'avait pas été couverte lors de la première vague. Selon le responsable du programme élargi de vaccination PEV, la campagne vise à éradiquer la poliomyélite dans la province. Le docteur Hans Batey rappelle l'importance de cette opération pour renforcer l'immunité collective. Ces propos ont été recueillis par Bernadette Nyangi.
On a encore beaucoup de cas de polio dérivés. Et la province du Maniema, qui est voisine au Nord Kivu, a notifié des cas, ce qui fait que, en étant limitrophe par les territoires de Walikale, nous devrons protéger les enfants du Nord Kivu. Mais aussi, ce qui est évident, quand il y a un cas de polio dérivé, c'est que l'infection autour a déjà attrapé beaucoup d'enfants. Donc, il faut les protéger par l'immunisation. Mais aussi, il y a des nouveau-nés qui ne sont pas protégés. On doit également les protéger lors des campagnes de vaccination, y compris, bien sûr, la vaccination de routine. Alors, nous allons vacciner pour la province du Nord Kivu plus de 2 400 000 enfants des 34 zones de santé. Mais pour le Nord Kivu, nous l'avons fait en 2 étapes. Il y a l'antenne de Butembo qui a commencé la campagne à partir du 23 jusqu'au 25. Ils ont déjà fini. Et l'antenne de Goma qui va commencer du 30 avril jusqu'au 2 mai. C'est juste pour des raisons logistiques.
Cette deuxième vague de vaccination se déroule dans 19 zones de santé de la province du Nord Kivu, avec pour objectif de vacciner massivement les enfants et les protéger contre cette maladie invalidante. Santé encore, province du Tanganyika, l'aire de santé de Kisongo en territoire de Kalemie a réalisé 115% des résultats lors de la dernière campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dans une déclaration ce mercredi, l'infirmier titulaire de cette aire de santé annonce que sur plus de 6000 enfants attendus pour la vaccination, plus de 7000 ont été vaccinés. L'infirmier Kiba Barwani salue l'implication des parents et de certains responsables religieux dans la réussite de cette campagne de vaccination. On l'écoute dans cet extrait choisi par Paulin Monanga.
La campagne a duré 3 jours et 2 jours aussi de ratissage. On n'a pas atteint vraiment la cible pendant les 3 jours-là, raison pour laquelle on a eu cette opportunité d'ajouter encore 2 jours de ratissage. Donc, on a eu à vacciner dans les marchés et dans des églises. On attendait 6659 enfants pour ce passage-ci de GNV, Journée Nationale de Vaccination, mais nous avons atteint au moins 7686, soit 115,4%. Par rapport au temps passé, c'était 99%. Les stratégies pour atteindre ça, on a d'abord entré en contact avec les autorités politiques ou administratives. Il y a encore les responsables des églises qui nous ont quand même aidé à mobiliser les parents, à faire vacciner les enfants. Il y a aussi les mobilisateurs qui ont accompagné les équipes. Donc chaque équipe a eu un mobilisateur, un crieur, donc avec un mégaphone, mais il a eu à passer ménage par ménage parce que la stratégie était de porte à porte. On a eu à vacciner les enfants dans les camps de déplacés Umbwe et Mulicha les jours où on distribuait l'équipe par le partenaire Croix-Rouge.
Retour à Kinshasa pour parler de la clôture mercredi des premiers états généraux des postes et télécommunications organisés au centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale par les ministères des postes et télécommunications. 3 jours d'échanges intenses entre acteurs publics, privés et experts qui débouchent sur une ambition claire selon les organisateurs, celle de faire du numérique un levier stratégique du programme d'action du gouvernement. Ces assises ont permis de poser un diagnostic sans complaisance d'un secteur à fort potentiel, mais encore marqué par des déficits structurels. D'autres détails dans ces condensés d'Alain Irung rendu par Ella Chembalo.
Le ministre des Postes et Télécommunications, José Panda, a pour sa part insisté sur la portée stratégique de ses travaux. La République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Nous n'avons pas les droits de rester en marge de la révolution des technologies de l'information. Nous devons en faire un levier de développement économique et social, a-t-il dit. Prenant la parole au nom du secteur privé, Laurent Toumba, président de la commission télécommunication de la Fédération des entreprises du Congo FEC, a dit attendre une attention particulière du gouvernement pour permettre davantage d'investissements et améliorer la qualité des services. Dans son discours de clôture, la première ministre a souligné que ces états généraux n'auront pas été un exercice de circonstances. Ils auront constitué un moment de vérité, désormais un point de départ pour l'engagement et l'action. Les diagnostics sévères mais justes, infrastructures insuffisantes, couverture inégale, régulation en décalage, mais notre pays dispose d'un potentiel exceptionnel, a martelé la première ministre.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, ce sont des milliers de personnes qui sont présumées mortes dans la bande de Gaza et dont les dépouilles n'ont jamais été retrouvées, probablement ensevelies dans les décombres des bâtiments détruits. Un travail de recherche de ces dépouilles est en cours. Un travail de titans qui se heurte à de multiples obstacles.
L'invité.
Le directeur général de l'hôpital tertiaire Jason Sendwe de Lubumbashi encourage la consultation prénatale et le respect du calendrier vaccinal en faveur des enfants en République démocratique du Congo. Invité des Radio Kapi, Dr Foreman Mabala appelle les parents à faire vacciner leurs enfants afin de renforcer leur système immunitaire et de les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Il assure par ailleurs que son établissement hospitalier a engagé une série de réformes visant à faciliter l'accès à des soins de qualité. Docteur Foreman Mabala s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général Foreman Mabala.
Bonjour monsieur le directeur.
Comment s'est fait la gestion des épidémies à l'hôpital général Jason Sendwe en cette période de la campagne de vaccination contre la polio, la rubéole et la rougeole?
Alors la gestion se fait de la façon passive et puis active. Dans la passivité, c'est la gestion d'abord de la valeur intrinsèque des enfants par la vaccination des routines pour éviter que nous puissions être débordés par des cas et autres. Donc ce sont des épidémies évitables et nous pouvons les faire. Et de façon active, c'est une prise en charge à la fois clinique et paraclinique pour essayer un peu d'épargner nos enfants. Les enfants qui viennent chez nous sont bien pris en charge et surtout dans un confort qui, de telle sorte qu'ils puissent améliorer leur qualité.
Quelles sont les différentes réformes administratives et des travaux de modernisation en cours dans cet établissement hospitalier.
Réformes, il y en a. Nous avons d'abord commencé par les réformatages de l'homme, parce que c'est l'homme qui est au centre de la prise en charge. L'hôpital était réputé depuis un certain temps par un personnel peu conscient par rapport à l'approche des malades et autres. Nous avons jugé bon de faire en sorte que le personnel soignant ainsi que les professionnels de santé puissent être réformatés afin d'apporter le meilleur d'eux-mêmes et d'amener les soins. Et nous avons compris que nous devions intégrer à tout prix le système santé en République démocratique du Congo, en faire en sorte que le malade puisse être la priorité de nous tous en venant à l'hôpital. Et cependant, sur le plan administratif, nous avons privilégié d'abord l'accès aux soins que autre chose. L'hôpital étant un hôpital humanitaire, un hôpital tertiaire, et nous avons jugé bon de faire en sorte que les malades puissent d'abord bénéficier des soins et les urgences vitales puissent être prises en charge avant toute formalité administrative.
Que répondez-vous, monsieur le directeur général, de ceux qui pensent que l'hôpital connaît des difficultés dans la gestion des déchets médicaux?
Depuis un certain temps, nous avons, grâce au ministère national de la Santé et certains partenaires dont SARU, nous disposons maintenant d'un incinérateur industriel. Et cet incinérateur industriel nous permet de pouvoir gérer les déchets. Et notre personnel qui a appris à manipuler ces matériels est en train de faire en sorte que nous puissions pallier à cette difficulté. Mais étant donné que l'hôpital déverse sur le marché plus de 2 tonnes de déchets par jour, d'où nous recourons toujours aux autorités pour nous appuyer et nous donner les moyens nécessaires afin de pallier tant à l'évacuation que à la dissipation de ces déchets.
À part SARU, bénéficiez-vous de l'appui de d'autres partenaires dont l'UNICEF, OMS?
Jusqu'à là, pas encore. Nous sommes pris en charge totalement par notre ministère national de la Santé, les personnes de bonne volonté et surtout les gens épris de paix qui savent que nos frères souffrent, qu'ils peuvent leur apporter quelque chose. Mais la porte reste grandement ouverte pour des collaborations futures avec des organisations internationales et surtout des partenaires. Et nous sommes là pour servir la République démocratique du Congo.
Quel est le message que vous lancerez à cet instant à toute la population des Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga, pourquoi pas de toute la République qui vous suit à travers les médias?
Le seul message, il faut vacciner les enfants pour éviter la survenue des maladies épidémiques évitables. Je crois que la consultation préscolaire chez les enfants serait la bienvenue pour que le parent suive de près les enfants dès la naissance jusqu'à l'âge préscolaire et pourquoi pas continuer à être ces enfants qui sont à l'abri de tous les dangers possibles qui pourraient les guetter. Mais l'hôpital Jason Sengue qui rêvait depuis Belle-Irette de sa plus belle robe, le seul message c'est de passer nous visiter, de venir se faire checker parce que l'hôpital tertiaire Jason Sengue a un personnel bien qualifié et nous voulons mettre à leur disposition l'accès aux soins et que ces derniers ne soient pas un luxe.
Docteur Foreman Mabala, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'était notre invité, le docteur Foreman Mabala, qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilandan Kumar et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à suivre sur notre site internet www.radiokapi.net.